Donc c'est une joie d'être là. Alors le sujet paraît pas très spirituel. L'histoire de l'Église, ça fait, tiens, une prédication sur l'histoire de l'Église, est-ce que ça a du sens? Ben oui. Si jamais vous ne savez pas, peut-être c'est possible, hein, et y a pas du tout de, c'est pas du tout ironique, peut-être que vous ne savez pas, mais le livre des Chroniques ou le Roi des Rois, ce sont des livres d'histoire dans lesquels on retrace des fois des choses qui sont déjà dites précédemment dans le livre d'avant. Pourquoi faire? Parce que Dieu est le Dieu de l'histoire. Et finalement, en parlant de l'histoire de l'Église, ça nous permet de nous situer dans le temps et de ne pas oublier qu'il y a des gens qui étaient là avant nous, à qui on est redevable. Et il y aura des gens après nous qui nous seront redevables. Et quand je dis redevable, je ne parle pas de dépendance, mais juste de reconnaissance. S'il n'y avait pas des gens qui avaient risqué leur vie ou même qui étaient morts pour nous, enfin pour l'Évangile, mais je veux dire, peut-être que nous, ici, on ne serait pas là. Donc c'est toujours bon de se rappeler ce qui a été fait avant. L'organisme Le Sel vient de sortir un livre. Ils ont aimé leur prochain, je crois. Hein, c'est ça ? Franchement, je vous recommande vivement de le lire. C'est à chaque fois sur 2-3 pages, plusieurs personnalités, des hommes, des femmes, des hommes, qui, dans l'histoire de l'Église, ont laissé des traces. On pourrait penser à l'Armée du Salut, à la Croix-Rouge, à Elisabeth Fry, que vous connaissez par cœur. N'est-ce pas, Elisabeth Fry ? Oui, ça vous parle. C'est normal, ça nous parle à nous tous. Hein. Non, moi, ça me parle parce que je la connais maintenant, mais enfin, je la connais, elle est plus vivante. Mais je veux dire, forcément, quand on étudie, forcément, après, on sait. Mais Elisabeth Fry, elle a inventé les visites dans les prisons. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on a des aumôniers et des aumônières. Elle a son effigie sur le billet de 5 livres en Angleterre. Donc, c'est quand même pas rien. Son parcours est impressionnant. Une femme qui a osé parler devant le Parlement anglais, c'était la première fois dans l'existence du Parlement anglais qu'une femme parlait devant tous ses hommes, tous ses lords. Impressionnant, mais elle pas impressionnée. Voilà, une femme solide, une femme qui toute sa vie a bravé le milieu pénitentiaire, qui est un milieu particulier. Le milieu carcéral, si vous ne le connaissez pas, il est particulièrement angoissant. Selon les types d'ailes qu'on visite dans une prison. Voilà, mais une femme qui a toujours gardé son courage et une simplicité impressionnante. Voilà, donc dans l'histoire de l'Église, soit on prend l'histoire comme un cours et ben, je peux comprendre que ce soit bof, pas très aguichant, attirant, ou alors on voit ça comme des traces dans l'histoire des gens, d'hommes et de femmes qui ont aimé Dieu et qui ont aimé les gens autour d'eux et qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur argent. Même des fois ont perdu leur vie pour la cause de l'Évangile. Et franchement, c'est édifiant. Donc si jamais vous ne savez pas quoi lire comme livre en ce moment, c'est important de lire. Lisez ce petit livre, ils ont aimé leur prochain. Et donc c'est les éditions Sel. J'ai failli être jaloux de ce livre parce que j'avais commencé à écrire un livre sur ça. Et puis finalement, j'ai dit non, je ne vais pas avoir le temps. Et donc, un copain à moi qui m'a dit « Écoute, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire ça, ça ne te gêne pas ?» Je dis « Pfff, moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait un bouquin comme ça qui sorte. Le nom en bas, ce n'est pas très, très important. » Donc, je suis fier de recommander ce livre que j'ai eu la grâce de pouvoir relire avant sa parution. Et franchement, il est édifiant. Vous pouvez même avoir ce livre aux toilettes. Non, mais il faut être pragmatique dans la vie, hein, vous savez. Et des fois, dans les toilettes, on a juste un peu de temps, vous savez. C'est la vraie vie, hein, non? Il y en a qui passent beaucoup de temps en ce moment aux toilettes. Il y a des moments où on peut lire. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que vous pouvez lire ça en 2 minutes, chaque personne. Et donc, vous pouvez en garder pour le soir, le lendemain. Et... C'est la vraie vie, hein, n'est-ce pas? Donc, des fois, dans l'église, on a un peu des discours un peu aseptisés, mais non. La vraie vie, c'est ça. Et donc, ce livre est pratique. On peut le lire partout. Pas en voiture, normalement. Ce n'est pas recommandé. Peut-être quand on aura les voitures Google, là, qui... en audio, on pourrait. Oui, ça, c'est sûr. Mais pour lire, bientôt, il paraît qu'on n'aura plus besoin de conduire, puisque la voiture conduira pour nous. Bon, on verra bien. Hein. OK. Alors, hier, on a vu la naissance de l'Église. Dans les Actes notamment, et puis on a vu le déclin, comment l'Église qui s'est impérialisée ou institutionnalisée, ou mondaniser, comme vous voulez, tout ça, c'est la même chose. Comment l'Église s'est dégradée, en fait, dans sa façon de vivre l'Évangile. Aujourd'hui, ce matin, en tout cas, on parle de la réforme. Cet après-midi, on parlera des réveils. En quoi les réveils ont des leçons à nous apprendre, positives et négatives. Je sais que quelque part dans le monde évangélique, en tout cas français, on aimerait bien avoir un réveil. Moi, quand j'avais 12 ans, on m'a dit que le réveil allait arriver par Dunkerque. C'est normal, c'est là où j'habitais. Mais je vous assure. Hein. Et puis j'ai muté du côté de Toulouse, et là j'ai entendu des prophéties qui disaient que le réveil allait commencer à Toulouse. Et là je me suis dit, c'est grâce à moi. Et puis j'ai habité à Montpellier, parce que j'ai un peu voyagé. J'ai habité à Montpellier, et là j'ai entendu des prophéties qui disaient, la France va être bénie par la ville de Montpellier, le réveil va commencer par là. Et là vraiment j'ai commencé à croire vraiment que c'était grâce à moi. Non. Il ne faut pas qu'on soit dans l'attente d'un réveil. Il faut qu'on soit dans l'attente de ce qu'on doit faire, nous. C'est bizarre. Et c'est peut-être pour ça que le résumé, finalement, que tu as fait au moment des offrandes était pas mal. De dire, ce qui était retenu d'hier, c'est quoi? Ah bon? Mais les autres vont se rappeler, les autres vont se rappeler. Alors les autres avaient écouté? Voilà, ce que tu as à faire, fais-le. Ce que tu as à faire, fais-le. Mais j'ai vu que tu essayais de me copier, donc c'est pas bien, il ne faut pas me copier. Hein. En tout cas, je crois que si on pouvait effectivement retenir quelque chose de l'histoire de l'Église, c'est que Jésus est, ou on pourrait dire Dieu en général, hein, Dieu est, Dieu dit et Dieu fait. D'accord ? Chronologiquement, c'est ça. Et donc le Père, si on veut caricaturer, pardon pour le mot, mais il n'est pas péjoratif envers Dieu. Si on veut caricaturer les fonctions de Dieu, ce qui n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a bien Dieu distinct, mais en une seule personne, trois personnes distinctes en une seule personne, c'est compliqué pour rentrer dans notre petite tête, mais ça c'est Dieu, et il ne rentre pas dans nos têtes. Donc le Père, on pourrait dire, est et conçoit, le Fils dit, mais il est aussi, et le Saint-Esprit agit. Et il n'y a aucune péjorativité, ce n'est pas un degré, vous savez, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Même quand Jésus dit de son Père, il est le plus grand, ça n'est pas, il est le supérieur. Le mot en grec ou en araméen, selon le texte original que vous lisez, dit le premier. Donc Jésus ne dit pas de son Père qu'il est le plus grand en termes hiérarchiques, il dit qu'il est le premier dans le sens de la chronologie. Et pourtant Jésus n'est pas créé. Pourtant, Jésus existe toute cette éternité. Donc ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans notre tête. Et c'est tant mieux que Dieu ne rentre pas dans notre tête. C'est normal. Si tu arrives à faire rentrer ton Dieu dans ta tête, dans ta petite boîte, c'est que probablement ce n'est pas tout à fait Dieu. Donc c'est tant mieux qu'on ait des bugs. Et quelquefois, on voudrait simplifier dans le monde chrétien en général, on voudrait simplifier l'approche de la parole de Dieu parce qu'elle est complexe, la parole de Dieu. Elle n'est pas compliquée, elle est complexe. Compliqué, ça voudrait dire qu'il y a des experts qui peuvent la comprendre. Complexe, ça veut dire que tout le monde peut, mais que ça prend du temps. La parole de Dieu prend du temps. C'est un jeune élève juif qui vient voir un rabbin et lui dit « Pourquoi tu ne veux pas que j'étudie le monde grec ?» Alors le rabbin lui dit « Non, c'est pas ça. Je voudrais d'abord que tu fasses tout le tour de la Torah et quand tu auras fait tout le tour de la Torah, tu pourras étudier le monde grec. » Et donc, 10 ans plus tard, le jeune étudiant revient voir son rabbin, qui est forcément plus vieux, hein, les deux sont plus vieux de 10 ans, et il dit, tu sais, j'ai jamais eu le temps d'aller chercher ce qui se passait dans le monde grec. Et le rabbin lui dit, ah bon, mais comment ça se fait? Pourtant, avec tout le temps que tu as, tu es toi-même devenu un rabbin, tu as donc tout le temps pour étudier. Il dit, mais la Torah prend la vie. Et je trouve ça mignon, de pouvoir se laisser prendre par la parole de Dieu. Alors ce soir, j'ai ma série télé à regarder. Comme je n'ai pas réussi à prendre la première saison, il faut que je fasse la première saison, que j'enchaîne la deuxième. Ben, je ne vais pas avoir le temps pour la parole de Dieu. Hein. Bon, on ne dit pas ça comme ça, bien sûr. Quand même, on n'est pas... Mais on se laisse voler du temps, c'est terrible. Pas vrai? Donc on a besoin de prendre du temps avec la parole de Dieu. Et si on regarde l'histoire de l'Église, ça nous montre à quel point l'importance de la parole de Dieu et l'importance de l'action. Donc Dieu est le nom qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu, sur Dieu, c'est qui? C'est quoi? Quel est le nom principal, on va dire? C'est quoi? Yahvé? Ça veut dire quoi? Je suis celui qui est, ou je serai celui qui sera, ou j'étais celui qui était. C'est, les trois formes sont bonnes en hébreu. Donc Dieu est. Ça revient 6828 fois. Nous, on l'a traduit par éternel. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est un raccourci. Moi, j'ai un beau-frère juif. De temps en temps, quand j'ai besoin d'éclaircir l'Ancien Testament, je lui pose des questions. C'est toujours d'un enrichissement bluffant. Il me dit, l'éternel, l'éternel, mais ça ne veut rien dire. Bon, c'est un raccourci parce que quand même, l'éternel, ça veut dire quelque chose quand même. Mais il dit, mais non, mais les chrétiens, vous avez déformé. C'est Yahvé. Et il dit, mais ça a un sens énorme. C'est l'identité de Dieu. C'est qui il est. Et c'est vrai que c'est fort. Donc plutôt de dire l'éternel, on peut le dire, ce n'est pas une faute, mais de dire tu es celui qui est, surtout dans un monde où on n'a jamais autant consulté des coachs parce qu'on est abîmé dans notre identité personnelle, on est dans la dépression, le burn-out, comme jamais. Les chiffres sont impressionnants. On est dans une société qui se cherche. Nous avons le « je suis » et il vit en nous. C'est extraordinaire, non? Donc, parce qu'il est, alors je peux dire. Moi, je suis originaire d'un pays où on palabre beaucoup, hein, les Italiens. On irait directement à la case 2. Je parle. Et parce que je parle, je suis. Non, je suis, je parle et je fais. Et donc, chez les chrétiens, je crois qu'il y a une saison que Dieu ouvre pour dire, maintenant, il faut aussi faire. Alors, je ne dis pas que nous ne faisons pas. Mais je pense qu'il y a une saison, et on verra avec les réveils cet après-midi, il y a une saison pour faire ensemble en tant que collectivité, en tant que collectif, en tant que communauté. On a besoin de faire quelque chose dans la cité vers les autres. Et c'est ce ensemble-là qui est dans le faire. Mais avant, il faut être et puis dire. Et la louange, elle est importante. Parce que dans la louange, je déclare des choses. Dans les temps de chant qu'on a ce matin, on déclare, nous disons des choses à Dieu. Nous disons des choses de Dieu et nous disons des choses aussi sur nous et à nous. Et nous le déclarons devant les témoins. Vous êtes témoins de ce que l'autre a dit à côté de vous et celui qui est à côté de vous est témoin. Enfin, tu vois, tout le monde est témoin de ce qu'on dit et on déclare. On n'est pas juste en train de chanter un chant, je ne sais pas, pour chauffer l'ambiance. On n'est pas juste là parce qu'on ne savait pas quoi faire dimanche matin et puis nous, la grâce matinée, ça ne nous intéresse pas. Non, on a des fois envie de faire la grâce matinée, mais on vient chanter ensemble, pas pour perdre du temps, ni pour avoir un sens d'animation, mais parce qu'on veut déclarer que Dieu est bon. Et peut-être que pour certains, on a l'air complètement allumé de la tête quand on est en train de lever nos mains et en train d'adorer Dieu, ou alors que quelqu'un, il y a quelqu'un qui se met, qu'est-ce qu'il fait? Il est à genoux, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça peut paraître tellement bizarre, mais c'est juste une façon de déclarer aussi à Dieu combien on est attaché envers lui. Alors si on a accès à la parole, si on a accès au livre, le CNEF d'ailleurs a sorti une campagne qui s'appelait « Merci pour la Bible ». Plutôt que de célébrer une personne en 2017, hein, vous savez qu'il y avait la célébration de Martin Luther cette année. Alors d'ailleurs on peut le faire aussi, hein, ça dépend juste le degré qu'on donne à la célébration, du moment qu'on ne fait pas de l'idolâtrie. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'approche du CNEF, qui a fait une campagne sur « Merci pour la parole ». Et je pense que c'est ça qu'on peut dire principalement pour la réforme, c'est « Merci pour la parole accessible à tous ». Une Bible pour tous. Dans une période de notre société française où il y a des machins pour tous, c'est bon de pouvoir affirmer la Bible pour tous. Franchement, ça a de la classe. Et en plus, ce livre est tellement pertinent. Ce livre est tellement pertinent pour aujourd'hui, pour moi personnellement, mais aussi pour la société. Il parle tellement, quand tu lis Amos, c'est juste bluffant comment Amos parle de Danone. Non, il ne parle pas des marques. Mais le nombre de versets qu'Amos dit, pourquoi vous êtes convenus entre vous pour gruger les clients? Ouais. Et je prends exprès ce mot, plutôt populaire, parce que Amos utilise des mots populaires de son époque et il va voir le président Macron. Non, c'est au hasard, je prenais un nom au hasard, je visais personne. Il va voir le président Hollande, Sarkozy, il va voir le président et il lui dit, Écoute, gars, il y en a marre de ces commerçants qui abusent des petites gens. Il y en a marre que le riz soit de mauvaise qualité. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On n'a plus de problème de qualité alimentaire, n'est-ce pas? Mais les chrétiens sont concernés par ça parce que Dieu est concerné par ça. Dieu est concerné par le soleil qu'il donne à tous, bons et méchants. Il veut que tous, bons et méchants, mangent. Il veut que tous, bons et méchants, soient en bonne santé. Il veut que tous prospèrent. Maintenant, c'est sûr que ceux qui sont attachés à Dieu vivent les promesses différemment. On est d'accord. Mais la volonté de Dieu, c'est de bénir chacun. Et c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis bluffé par Amos, mais par les autres aussi. Hein. Mais j'étudie Amos en ce moment. Et je suis bluffé par Amos qui parle le langage aujourd'hui. Et quand vous le lisez dans le texte original, les mots sont d'une cruté. Non, ça n'existe pas. Sont crus. Les mots sont crus. Les mots sont secs. Les mots sont presque vindicatifs. Et Amos, quand il va voir son roi, il dit, écoute, t'as intérêt à arranger ça parce que sinon, ça va aller mal pour ton matricule. Je trouve ça impressionnant. Et je trouve ça d'une actualité incroyable. Il dit même, ça suffit de vendre le pauvre pour une paire de sandales. Et une paire de sandales, à l'époque, c'est ce qui est la paire de chaussures la plus... Enfin, la façon de marcher la plus populaire. C'est comme on dirait une espadrille aujourd'hui, ça vaut rien, quoi. Allez, 2,50 €. Allez, 3,50 €. Allez, 15 € même. Allez, 30 € la super espadrille, faite exprès en Espagne. Mais même à 30 €, ça vaut rien. Et vendre le pauvre pour ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, ça tombe bien. L'Église, je ne sais pas si vous connaissez le défi Miché, mais le défi Miché, c'est le rôle d'Amos ou de Miché, parce qu'ils ont fait les mêmes choses. Et c'est juste impressionnant que l'Église puisse bouger et faire bouger les gouvernements. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas le gouvernement, mais nous avons un rôle auprès des gouvernements. C'est plus facile d'être calme dans son église, mais c'est un défi d'aller interpeller les hommes et les femmes politiques. Mais c'est aussi la mission de l'église en tant que mission, en tant qu'œuvre. Ok, on va s'arrêter sur la pré-réforme juste avant la réforme, bien entendu. Je vais passer sur certaines choses. Alors, je ne vais pas forcément citer des versets de la Bible ce matin, puisque c'est le parcours de l'histoire de l'église et on fait un espèce de parcours assez raccourci. Je vais quand même mentionner des versets, on va quand même en lire un ou deux en passant, vous inquiétez pas, mais je mentionne aussi pas mal de versets et donc c'est bien de les capter au fur et à mesure qu'ils arrivent et éventuellement de les noter pour aller plus loin. Alors, la pré-réforme commence très tôt finalement, elle commence avec Pierre Valdo, et donc c'est ce qu'on appelle les vaudois, les églises vaudoises qui existent toujours, notamment en Italie. Et donc on a un monsieur qui a commencé à donc dénoncer, les couleurs sont pas, bon c'est pas grave, donc il y a les choses qu'il a dénoncées, à chaque fois chaque pré-réformateur a dénoncé des choses et proposé des choses issues de la Bible. Donc il a dénoncé la richesse, alors ce gars-là est un millionnaire de l'époque, Valdo, hein. C'est un gars très riche, un marchand qui a réussi sa vie et qui va, parce qu'il dénonce, affirmer qu'il doit faire aussi de son côté les choses que Dieu demande de faire. Donc il a partagé sa fortune en deux. Et on parle de millions, hein. En équivalent d'euros, ce sont des millions d'euros. Il a partagé sa fortune en deux. Une partie pour ses deux filles, c'est bien, il pense à ses enfants. Et une partie pour la traduction de la Bible, respect. Et donc les premières bases de ce que nous on lit aujourd'hui sont grâce à Pierre Valdo. Donc il dénonce la para-religieux, il dénonce les vêtements spéciaux, il dénonce tout le bling-bling de l'époque de l'Église instituée. Et puis il dénonce aussi les sacrements. Et il dit, trouvez-moi des versets. Alors Pierre Valdo, c'est un, comment on va dire ça, un branque. Ses écrits sont assez caustiques. Et surtout quand il écrit aux autorités, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Et alors quand il dénonce les sacrements, je pense que c'est le pire qu'il trouve insupportable. Parce qu'il dit encore, Bon, la richesse, la para religieuse, ça concerne quelques personnes. Mais les sacrements, vous aveuglez tout le monde avec vos sacrements. Vous leur dites que s'ils font ceci ou cela, s'ils font un pèlerinage, s'ils font telles actions, alors ils vont probablement être sauvés. Mais vous racontez des mensonges, vous manipulez les foules. Vous êtes des manipulateurs véreux. Enfin, puis alors, comme il écrit en français, c'est assez amusant. Alors, les choses positives que lui, en dehors du fait qu'il a lui-même vendu ses biens, enfin, qu'il a réparti sa fortune, il a un respect de la parole de Dieu qui est probablement, en tout cas pour les gens de son époque, au Moyen-Âge, quelque chose d'intense. Et il dit, mais la parole de Dieu, c'est le moyen de connexion avec le ciel. Alors, bien sûr, il y a l'expérience personnelle, mais l'expérience personnelle, vous et moi, on n'a pas forcément les mêmes expériences personnelles. Mais on a un repère, on a un guide qui s'appelle les Écritures, ou l'Écriture, ou la parole de Dieu, ou la Bible. Tout ça, c'est identique. Et donc, il dit, en fait, je veux apprendre à aimer la parole de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, il a vraiment une... Ça se dit pas à l'époque, quoi. Je veux dire, on lit la... On fait la messe en latin, on lit les textes en latin, donc c'est pas accessible et les gens ne savent même pas ce qui est dit puisqu'ils n'ont pas forcément la connaissance du latin. Et puis, forcément, il revendique cette traduction en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue utilisée par les gens qui sont autour de lui. Donc, il a aussi voyagé en Italie. Et en tout cas, à chaque fois, il défend que la parole de Dieu doit être accessible à tous, puisque... Chacun doit être enseigné par l'Esprit de Dieu. Des fois, les charismatiques ont récupéré ça peut-être un peu rapidement. Être enseigné par l'Esprit ne veut pas dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a pas de prédicateur et il n'y a pas la Bible. Non, non. Enseigné par l'Esprit, ça veut dire que chacun est accessible par le Saint-Esprit en direct. Je n'ai pas besoin d'un médiateur, je n'ai pas besoin d'un pasteur pour comprendre la parole de Dieu. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Dans une époque où tout doit passer par le médiateur, qui est le prêtre, le curé, ou c'est juste impressionnant, c'est complètement révolutionnaire. Et je rappelle qu'au Moyen-Âge, les gens sont quand même en servilité. On travaille pour des seigneurs, on n'a pas de propriété, on n'a pas de bien personnel. Des fois, les travaux sont particulièrement lourds, on ne travaille pas 35 heures. La loi française n'est pas encore passée par là. On est dans une condition de vie qui est particulière. Et il dit, en fait, la parole de Dieu libère. Ah, c'est ce qu'il ne fallait pas dire, justement, à cette époque-là. Eh oui, elle libère. Donc, j'ai besoin des gens dans l'église, en communauté. J'ai besoin que des gens spécialistes, à mettre entre guillemets le mot spécialiste, mais bon, j'ai besoin d'apprendre des gens qui ont creusé un peu plus que moi, mais je ne suis pas un ignorant. Je peux être enseigné par l'Esprit de Dieu en direct, et heureusement. Parce que d'abord, si on collait tous les cultes et toutes les prédications, on n'arriverait même pas à couvrir toute la parole de Dieu. Donc déjà, heureusement que je peux par moi-même creuser la parole de Dieu, et aussi parce que ça ne me rend pas dépendant. Il y a une saine dépendance à l'autre, mais il y a une mauvaise chose d'être dépendant d'un super personnage qui saurait mieux que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que les autres. Il y a peut-être des gens qui savent plus. On est plus sur un champ, vous voyez ? On est tous à égalité. Donc si on prenait la Bible, par exemple, peut-être qu'il y en a qui connaissent plus, mais ce n'est pas plus dans le sens supériorité. Moi, je t'écrase par mon savoir. Moi, je sais. Moi, je sais comment lire la Bible, vous comprenez ? On ne dit pas ça comme ça, mais quelquefois, on pourrait s'arranger avec ça. Donc cette traduction en langue vulgaire permet justement l'accession à tous. Et puis, ah ben voilà, je l'avais noté, je ne me rappelais plus, mais don de soi, y compris de son budget. Donc, en opposition avec les richesses. Donc, il ne fait pas que dénoncer des choses, il les vit par lui-même. Et ça, c'est ça qui est fort dans les pré-réformateurs. Ils sont entourés d'un monde qui est hostile. À la limite, à la réforme, il y a un mouvement, on va dire, populaire, donc qui peut aider. Mais il est évident que les pré-réformateurs ont plus souffert que les réformateurs. Les réformateurs ont souffert aussi, mais je pense que... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est assez facile de comprendre qu'ils étaient dans un milieu hostile, alors que les réformateurs sont au début dans un degré d'hostilité, mais qui rapidement est devenu populaire. Donc, quand même, respect pour ces hommes et ces femmes. Alors, il y a un projet de livre, après, après ils ont aimé leur prochain, un projet de livre sur l'apport des femmes. Parce qu'on parle toujours des hommes, dans les pré-réformateurs et les réformateurs, c'est bien dommage. Il y en a peu qui parlent des femmes. Pas parce qu'il y avait peu de femmes impliquées, mais parce qu'on a parlé des têtes d'affiche. Voilà. Et à l'époque, ce sont des femmes. Alors moi, dans la frise que j'ai faite là sur... je parle de, je crois, de la femme de Mathias Zell. Je crois que c'est Zell. Alors, donc, c'est une femme théologienne. Quand moi, je l'ai mis sur ma frise, donc j'ai des professeurs d'université qui ont vérifié la frise. Hein, elle a été passée au crible. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques erreurs, hein, que j'ai dû corriger. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est bien d'être enseignable. Et alors, il y en a un, il me dit, mais cette dame, mais non, elle n'est pas théologienne. Je dis, ben si, même la ville de Strasbourg a écrit qu'elle était théologienne. Et en plus, elle est française, s'il vous plaît. Ben, cocorico, de temps en temps. Et finalement, donc ce gars-là qui est à Montpellier a vérifié, il m'a dit, ah ben oui, ah ben oui, ah ben ça c'est étonnant, c'est rare. Je dis, ah non, 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 monsieur, non, non, ce n'est pas rare. C'est juste rarement mis en avant, mais ce n'est pas rare. Et donc cette dame, je crois que c'est Catherine Zell, hein, mais il faudra vérifier, je vais pas aller lire, mais il me semble que c'est Catherine Zell, en tout cas c'est la femme de Mathias Zell, qui était comptée parmi les collaborateurs des réformateurs, elle a été considérée comme réformateur. C'était une théologienne, donc ça doit être autour de Martin Bucer, ou je sais pas, mais... Bon, pendant que quelqu'un cherche pour nous, merci Michel... Le deuxième personnage incontournable des pré-réformateurs, et c'est pareil, là je vais en mentionner que trois. Alors, c'est comment elle s'appelle ?
Alors, c'est Mathias
Bell, sa femme Catherine, théologienne. Voilà, Catherine. Respect. Donc, pareil, hein, à cette époque-là, une femme, elle n'a pas trop voix au chapitre, quand même. Hein. Donc, c'est encore plus respectueux et plus louable. John Wycliffe, alors là, ce personnage, forcément, il mérite une attention particulière. C'est lui qui a vulgarisé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une association pour la traduction de la Bible qui s'appelle Wycliffe, qui est la structure de traduction de Bible au monde pas la meilleure, parce que ça peut pas possible de dire ça, mais en tout cas la plus impliquée, la plus travailleuse, la plus productrice de traduction. Donc lui, il dénonce les œuvres et les ventes des indulgences. À l'époque, si tu veux aller au ciel, il faut mettre des petites pièces dans une petite boîte, et c'est au moment où tu entends gling, 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 que peut-être quelque chose se passe dans le ciel pour toi. C'est d'une violence, c'est à la fois de la... Alors ça peut nous faire sourire hein, aussi, on a le droit, mais quand on réfléchit au fond, c'est pas du tout marrant. Ça veut dire qu'on a manipulé des gens pour leur dire « donne de ton argent, grâce à cet argent, peut-être que ça pourra bénir les gens qui sont déjà morts. » Et donc, on utilise les gens de ta famille qui sont morts. C'est encore pire. C'est même pas pour toi. C'est peut-être qu'en donnant de l'argent, ça va bénir des gens et les sortir de purgatoire. Mais c'est d'une monstruosité. C'est d'une manipulation innommable. Et alors, si vous lisez les écrits de l'époque, c'est juste, mais waouh ! Tu te dis, mais c'est scandaleux. C'est incroyable. Et heureusement que des gens comme lui ont dénoncé, et ils les ont dénoncés au risque de leur vie. Son prochain, Jean Hus, lui, il en mourra. John Wycliffe, il a eu plusieurs histoires douloureuses. Il dénonce aussi le culte des saints et les pèlerinages, et la hiérarchie. Et en plus de la hiérarchie religieuse, il dénonce le niveau de moralité absolument délétère du monde de l'époque, ou bien entendu, ils sont célibataires, mais d'autres choses se produisent qui font qu'à la fin, ils sont plus célibataires. Enfin, ils sont célibataires d'un point de vue statut social, mais pas célibataires dans le sens vierge. Et donc, un niveau moral, et alors il dit aussi un niveau intellectuel très bas. Et John Wycliffe est quelqu'un d'érudit, qui a travaillé toute sa vie, qui a appris, qui a lu, même avec les yeux abîmés, qui a continué à lire, continué à s'instruire. Et il disait... avec d'autres, lire la parole de Dieu absolument, livre premier, mais aussi lire d'autres choses. Pas dans le sens concurrence avec la parole de Dieu, mais juste avoir de la connaissance, comprendre le monde, comprendre la société, développer une intelligence intellectuelle. Il y a d'autres formes d'intelligence, mais en tout cas la développer. Et il reprend un de ces versets qui dit, vous savez, dans le Nouveau Testament, il est dit que les gens de ce monde sont plus avisés que ceux qui prétendent être fils de Dieu. Waouh. C'est un peu waouh. Donc soit vous lisez ça, vous passez à autre chose. Soit on passe très vite à autre chose, soit on se dit ah, ou alors on se culpabilise avec ce verset, on se dit oh, les gens du monde sont plus avisés, et donc ça veut dire plus stratège, hein, le mot. Plus stratège en termes d'intelligence que. Ou alors on le prend comme un avertissement. C'est pas parce que tu as la foi que tu dois devenir simpliste. Allô? Soyons stratèges. Et j'aime la stratégie dans la Bible. Il y a plusieurs personnages qui ont de belles stratégies. Et je pense que des Ruth et des Esther sont high level. Ah, ce sont des femmes, mince. High level. Et je pense que messieurs, nous devrions apprendre des dames. Non, je n'ai non, ça ne me plaît pas. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Messieurs, je vous donne une deuxième chance. Je pense que les hommes doivent apprendre de la stratégie des femmes. Ah, j'ai entendu des voix un peu plus masculines, mais ça ne me plaît pas, il n'y en a pas encore assez. Je n'entends pas l'unanimité des hommes dire Amen. Et ça m'embête. Alors chiche, on va demander aux femmes de se taire, parce que dans l'assemblée. Elle était bien faite. Hein. Non, non, ce verset est totalement déformé, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc si jamais vous êtes une femme et qu'on vous a dit que dans l'assemblée, les femmes doivent se taire, c'est juste affreux de l'interpréter comme ça. Bref, mais s'il vous plaît, pour le coup, je demanderai aux dames de ne pas se manifester et je repose une troisième fois une affirmation. Les hommes devraient apprendre de la stratégie des femmes. C'est parce que tu as un coup dans les côtes que tu as dit Amen, parce que sinon tu ne l'aurais pas dit. Non, mais c'est pas. Tu es mal. Tu es en situation complexe et pourtant tu n'as pas dit Amen spontanément. Amen. Apprendre de la stratégie des femmes est une preuve d'intelligence d'un homme. Moi, je suis fatigué, les hommes ne sont pas là. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas André. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas André. Sinon, les hommes, ils auraient eu peur, ils auraient dit on dit Amen. Ah, je me sens très seul là. Les hommes prouvent leur intelligence quand ils apprennent de la stratégie des femmes. Ouais, c'est parce que je suis là, c'est ça? Vous sentez la pression? Ok, en tout cas, franchement, lisez Esther, lisez Ruth, lisez comment Naomi conseille à Ruth de faire les choses. Mais c'est bluffant, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Bon, allez, j'arrête là, c'est pas le sujet, vous avez de la chance. Messieurs. Et puis, donc Jésus-Christ, bien sûr, comme chef de l'Église. Le pape n'est pas le chef de l'Église. Les soupapes ne sont pas les chefs de l'Église. Aucun homme, aucun homme, aucun homme, aucune femme ne peut avoir ce titre. Seul Jésus est le chef de l'Église. Et ça doit à la fois nous amener à l'humilité, mais aussi à la fois au respect de ce que Dieu a instauré dans l'Église. Dieu n'a pas instauré des hommes patrons. Il a instauré des hommes qui sont au service de Dieu et au service des autres. C'est juste pas la même chose. Et donc, il y a un verset qui dit, celui qui va être premier, est-ce que vous avez la même dans votre Bible? Il n'est pas dit que ce n'est pas bien de vouloir être premier. Moi, quand j'étais ado, famille de 8 enfants, 4 filles d'abord, et ensuite 4 gars. 4 brouilles. Non. C'est bien, vous suivez. 8 enfants, tous des belles pièces. Moi, je suis le 6e. J'étais très, très, très réac, très méchant même. Je continue à être réac. Mais j'espère qu'il y a moins de méchanceté. En tout cas, je me soigne. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais ce n'est pas grave. Oui, alors, moi, je pensais que quand on était au service de l'Église, je ne supportais pas les pasteurs. Mon père était pasteur, mon beau-père était pasteur. Je ne supportais pas les pasteurs. Je ne les supportais pas. Ils m'énervaient tous ces gens-là. Parce que je trouvais que, alors soit les gens étaient serviles, soit ils étaient des patrons. Et quand j'ai vu qu'il fallait peut-être que je devienne pasteur, je me suis dit, oh mince, j'ai loupé ma vie. Mais ce que je trouve qui est le plus difficile dans le rôle d'un pasteur, c'est pas de prêcher. C'est pas d'aimer les gens. Non, franchement, je ne pense pas. Pour moi, ce n'était pas le problème d'aimer les gens, mais de servir les gens. Quand tu as envie de. Non, jamais. Et servir, c'est probablement plus difficile que juste d'annoncer les choses. C'est tellement facile. Alors en plus, pour un rital comme moi, c'est très facile de palabrer. J'ai pas d'effort à faire, moi. Des fois, les gens me disent, ça va, t'as du courage pour parler. J'ai jamais besoin de courage pour parler. J'ai besoin de courage pour servir. Bon, ça va, par la grâce de Dieu, quand même, c'est un peu moins difficile qu'avant. Mais c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et qu'on se rappelle que Jésus est le chef de l'Église. Et ça veut dire que, même si je suis devant, ici, ou devant dans une action, et ça peut être pour chacun de nous, d'ailleurs, même si je suis devant dans une action, il y a toujours un moment où je dois dire, c'est à cause de lui. À cause. Il est la cause de la réussite. Ça vous va ? C'est grâce à lui. Et ça rappelle que Jésus est le chef et que je ne suis même pas un sous-chef. J'ai juste un champ d'autorité qui est peut-être plus grand qu'un autre, mais il n'est pas au-dessus. Et ça, c'est une révolution dans l'Église à cette époque. Le fait qu'on affirme que Jésus est le chef de l'Église. L'autorité de la Bible est plus grande que l'autorité de l'Église et des traditions. Il ne faut pas évacuer les traditions. Il y a de bonnes choses dans les traditions. Il y en a aussi des mauvaises. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la tradition soit au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'il faut garder ce qui est bon de la tradition et il faut virer ce qui est mauvais de la tradition. Quand elle ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, je ne peux pas accepter la tradition. J'ai même l'obligation de me retirer de la tradition quand elle n'est pas bonne. Si elle n'est... qui sont de l'ordre de la tradition, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas forcément bibliques. J'aime dire... Alors maintenant, peut-être vous avez repéré que je suis un peu provoque. Il faut prendre les choses avec ce que chacun est. S'il faut retenir, s'il faut retenir d'une prophétie seulement ce qui est bon, alors aussi c'est vrai pour une prédication. Par exemple, le mariage. On fait tous des mariages dans nos églises, mais est-ce que vous avez vu un seul mariage dans l'église dans le Nouveau Testament ? Ah oui, mais c'est pas dans l'église, hein, les amis. Pardon. Hein. Et c'est pas un piège, hein. C'est juste pour dire, et voilà une bonne tradition. On fait des mariages dans les églises, mais le mariage qui est vrai devant Dieu, c'est le mariage qui se fait devant témoin. C'est la condition dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est un mariage devant témoin. Ça ne parle pas de faire la cérémonie du mariage. Donc voilà une tradition qui est bonne, qui est saine. Mais dans la Bible, vous ne voyez aucune cérémonie de mariage comme nous le faisons et comme nous le pensons. Les chants, on les fait à notre façon, mais au moins les chants, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des cantiques, il y a des conducteurs de louanges. Oui, il y a des conducteurs de louanges. Il y en a même 24 sur 24 dans l'Ancien Testament. Donc c'est impressionnant. Donc ça, ce n'est pas une tradition, c'est une direction de Dieu. La prédication, c'est pas, on le fait chacun à sa façon. Bon, on ne faisait pas avec des PowerPoint à l'époque, hein, du temps de Jésus. Mais en tout cas, chacun... Mais ça, c'est un sujet. C'est pour donc dire que ce n'est pas parce que c'est une tradition que ce n'est pas bien, mais une tradition peut avoir aussi mis quelque chose de bien. Et donc, le mariage est un exemple de ça. Si jamais vous ne me croyez pas, juste vérifiez à quel endroit il y a parlé d'une cérémonie de mariage dans une église. Parce que Cana ne compte pas. Hein. Jésus est invité. On ne sait même pas s'il a pris la parole. On ne sait même pas s'il a pris la parole. On sait ce qu'il a fait, par contre. Hein. Vous êtes sûr qu'on en parle ? Et puis, l'accès direct à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans une petite boîte avec une grille et puis avec quelqu'un avec qui tu parles pour pouvoir accéder à Dieu. Tu peux être direct avec Dieu. Tu peux être dans le métro et parler avec Dieu. Tu peux être au supermarché et parler avec Dieu. Tu peux être dans ta salle de bain et parler avec Dieu. Tu peux même être aux toilettes et parler avec Dieu. Bah comme ça, c'est cadeau. Oui ? Non, c'est pour dire, en fait, quelquefois on spiritualise les choses. La Bible, elle ne dit pas qu'il y a des choses spirituelles et d'autres pas. Elle dit que tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, alors fais-le de bon cœur aussi, oui, c'est exact. Mais tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Ce n'est pas juste le moment où tu vas à l'église. C'est tout ce que tu fais, tout ce que je fais doit aller. Mince, j'ai dépassé mon temps ou je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, moi. Ça va aller ? Jean Huss, c'est le même, c'est la photocopie. Enfin, on n'est jamais une photocopie, mais je veux dire. Et il a vraiment été un disciple de Wycliffe. Il a commencé à surfer sur les mêmes dénonciations. Donc, je les remets rapidement, mais ce sont exactement les mêmes. Hein. Il dénonce les ventes des indulgences, le culte des saints et pèlerinages, et la hiérarchie et le niveau moral et intellectuel trop pauvre des encadrants de l'Église, du staff de l'Église, on pourrait dire. Alors, il met d'autres choses en avant. Donc, il redit la Bible accessible à tous, comme Wycliffe. Il va un peu plus loin, il dit « Chaque chrétien doit être impliqué dans la cité ». Nous avons un mandat de citoyen du ciel qui se double d'un mandat de citoyen sur la terre. Et il reprend les versets comme Jérémie 29, 7, où il est dit que chacun doit rechercher le bien de la ville dans laquelle il est placé. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte ? À qui on parle ? Aux Juifs. On parle aux Juifs et ils sont où ? À Babylone. Je ne sais pas si vous connaissez le monde juif, mais le monde juif et l'argent, c'est une réalité. Alors, après, il y a les... comment on a manipulé ça. Mais je veux dire, quand même, le rapport d'un juif envers l'argent, ou en tout cas envers les affaires, est vrai. Ce sont vraiment des gens qui font des affaires. Je ne sais pas si vous savez, mais demander à un juif de chercher à faire la prospérité, donc à faire gagner de l'argent à son ennemi, c'est particulier. Ce que Dieu a demandé au monde juif à cette époque-là, c'est violent. Rechercher le bien de la ville, en plus de Babylone, mais c'est le pire du pire, l'époque. C'est l'idolâtrie à l'excès, c'est les orgies à l'excès, c'est la manipulation bancaire, enfin le système financier à l'excès, tout est à l'excès à Babylone à l'époque. Et Dieu demande aux Juifs de rechercher le bien de la ville dans laquelle ils sont. Et le mot c'est shalom, rechercher le shalom de la ville. Paix avec Dieu, paix entre les hommes, prospérité économique, prospérité dans la santé et politique. Wouh. Nous quand on pense shalom, on pense à la paix. Shalom, shalom. Non, je veux dire en général. Mais heureusement, il y a d'autres sens. Et heureusement, il y en a qui savent aussi ce que ça veut dire, ça, shalom. Et ce sens de shalom, il est énorme, il est fort. Il est fort. La première fois que mon beau-frère m'a dit shalom, je dis, ouais, bon, le cliché, quoi, tu vois. Et petit chrétien évangélique que j'étais, ouais, le cliché, super, shalom. Et il me dit, tu sais au moins ce que je te dis ? Joker. Parce que je voyais bien que je l'avais joué trop facile et qu'il se disait, non mais attends, je vais lui expliquer un peu quoi. C'est fort ce mot shalom, il a un sens énorme. Et quand Dieu dit qu'on doit rechercher le shalom de la ville où on est, alors si c'est vrai pour Babylone, à plus forte raison pour Aubergenville. Non ? Je ne pense pas qu'Aubergenville soit plus pire. Comment il parle la France ? Je ne pense pas qu'Aubergenville soit plus pire que Babylone. Si ? Vous rivalisez ? Je ne pense pas. Il y a aussi des bêtises à Aubergenville, il y a aussi du péché à Aubergenville, on est d'accord. Il y a aussi des manipulateurs, il y a des idolâtres. Mais je pense qu'en degré, on n'en est pas tout à fait là. Donc si c'est vrai pour des juifs envers Babylone, c'est vrai pour des chrétiens envers Aubergenville. Et donc il dit, chaque chrétien doit être impliqué et chaque chrétien doit avoir une activité missionnaire. C'est-à-dire, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis un représentant. Est-ce qu'on pourrait imaginer... qu'en tant qu'ambassadeur, ça nous demande de porter un costume spécial. Forcément, ce n'est pas ce que Dieu nous demande, mais c'est juste, est-ce qu'on peut imaginer que chacun d'entre nous, en tant qu'ambassadeur, devrait porter un uniforme ? Ça veut dire, alors je sais que ce n'est pas dans le sens factuel, mais ça voudrait dire qu'on sort d'ici et on aurait tous un uniforme qui dit « Je suis ambassadeur du royaume de Dieu ». Ça nous placerait dans un autre rapport aux autres, n'est-ce pas ? Bon, heureusement, nous n'avons pas d'uniforme à porter. C'est génial parce que Dieu sait qu'on n'a pas besoin d'uniforme. Parce qu'il ne veut pas nous uniformiser. Mais on est quand même ambassadeur. On a tous la fonction d'ambassadeur. Amen. C'est ce qu'a défendu Jean Huss et il en a perdu la vie. Alors, une citation de Jean Huss au moment où il a dit ça plusieurs fois dans sa vie et il l'a répété au moment où il est passé au bûcher, puisqu'il en est mort. Et forcément, quand quelqu'un dit ça, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été menacé de mort. Moi, j'ai déjà eu un couteau et un flingue, là. Puis je suis régulièrement menacé en tant qu'élu. J'ai été 3 fois au tribunal. Enfin, voilà, c'est la vie paisible d'un élu. Et donc, comme je gère un CCS dans une ville pauvre est en grande difficulté. On a des gens qui sont en grande difficulté sociale et dans des drames sociaux. Ça ne excuse pas les gestes de violence, bien entendu, mais régulièrement, j'ai... Sans mots, hein. C'est pire qu'une menace verbale. Comme ça. Et puis des fois, donc on a installé une caméra, parce qu'il y en a quand même des agents qui sont menacés, hein. Il y a eu des coups, enfin voilà, hein, bref. Donc maintenant, il y a des fois, ils font ça. Tu sais, pour dire à la caméra, quand on regarde, c'est pour Monsieur Maroni. C'est chaleureux, hein, c'est sympathique. Et vous savez, c'est toujours dans ces moments-là où vous vérifiez votre évangile. Et puis finalement, non. Dieu, toi, tu les aimes. Bon, c'est presque facile à dire ça. Mais quand tu l'as en face de toi, tu as envie de lui dire combien toi aussi tu l'aimes. Et tu voudrais lui faire une imposition des mains. Parce que je suis normal. Enfin, ou pas normal, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, c'est après coup que Dieu me dit non, mais tranquille, Émile. Enfin, je ne m'appelle pas Émile. Mais ça, c'est la réalité. Et donc, quand quelqu'un qui est à 2 minutes de mourir sur le bûcher affirme ça, c'est que vraiment c'est intense. Parce que quand vous êtes au moins sur le point de mourir ou menacé de mort, c'est plus le palabre qui sort, c'est la vérité. Tu vois ? Et donc si le palabre était équivalent à la vérité, alors c'est le palabre qui sort pour dire la vérité. J'aime cette citation. Cherche la vérité. Écoute la vérité. On parle de la parole de Dieu, bien sûr. Apprends la vérité. Aime la vérité. Soutiens la vérité. Défends la vérité jusqu'à la mort. Quand tu sais que le gars, il a dit ça avant de mourir, ça pèse. Et j'aimerais juste le relire. Cherche la vérité. Écoute la vérité. Apprends la vérité. Aime la vérité. Soutiens la vérité. Et défends la vérité, même s'il t'en coûte la mort. Martin Luther King, la première année où il a commencé à faire son boycott pour le droit des Noirs américains, la première année, en 1956, il commence son action en décembre 1955. Un mois après, sa maison est bombée. Un mois après avoir commencé son combat en faveur des Noirs américains, il est menacé de mort, mais lui, ce n'est pas un couteau sous la gorge. Hein. Il a sa maison qui est bombée. Sa maison est détruite en partie. Et puis, ça s'est revenu une quinzaine de fois où ses maisons, où les hôtels où ils logeaient ont été bombardés, et des fois totalement. Vous voyez des photos, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est des vraies menaces, on n'est pas dans le blabla, quoi. C'est pas juste, c'est même pas un geste, ce sont des actes. Et il dit, si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose dans ta vie, alors ta vie n'a pas beaucoup de sens. Il dit ça dans les églises, hein. Il ne dit pas ça aux incroyants. Il dit ça dans les églises. Il a prêché ça à plusieurs reprises, ça en est devenu une citation. Si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, ta vie n'a pas beaucoup de sens. Pourtant, tu dis, quand même, Martin, je suis chrétien. Ça a quand même du sens. Oui, oui, c'est bon. Oui, ça a du sens, mais ta vie n'a pas beaucoup de sens. Et donc, cherche ce pourquoi tu es prêt à mourir. Et ça donne du sens à ta vie. Et ça relativise tous les drames. Ça relativise les pépins quand tu perds un peu d'argent. Ça relativise quand tu trouves que ton salaire il n'est pas très élevé. Ça relativise quand tu as des problèmes de santé qui reviennent régulièrement. Moi, j'ai des maux de crâne qui reviennent régulièrement. Je prie, j'aimerais en être libre, parce que c'est pas rien quand tu as un casque comme ça, qui descend jusque dans la nuque. Alors, ça serait cool, je prendrais des médicaments. Il y a des médicaments qui existent et qui t'enlèvent carrément le mal. C'est impressionnant, d'une puissance, ces médicaments. Ouais, sauf qu'après, ça te laisse un peu avec des états seconds. J'ai fait le choix que j'en prenais pas. De temps en temps, je prends bien une petite codéine. Mais je veux pas. Mais du coup, je souffre plus que si j'en prenais. Mais je suis pas à plaindre. Je me dis à côté de ceux qui sont bombés tous les jours en Syrie. Pétard, mais je sais pas ce que je supporterais. Je sais pas ce que je supporterais en Israël si j'étais un chrétien messianique et que j'étais dans une famille où je suis persécuté. Je sais pas ce que je ferais si j'étais dans une famille arabe et que je suis persécuté pour ma foi. Parce que c'est partout hein, qu'on peut être persécuté. Partout. Et par n'importe qui. Mais est-ce que je vis une vie qui en vaut la peine et qui fait que, bon, allez, des maux de crâne, enfin des migraines. Puis en plus, j'ai les trois auras en même temps. Alors toi, c'est malin. C'est-à-dire que je me complique trois fois plus les migraines classiques. C'est bien, hein. Mais qu'est-ce que c'est à côté des gens qui souffrent au quotidien? C'est rien. Et j'apprends dans ma vie à moins râler, Au départ, je suis un vrai râleur, moi. Je n'avais pas l'option tranquillité, je n'avais pas l'option soft, je n'avais pas l'option douceur, je n'avais rien de toutes ces options-là dans ma vie. Donc je suis un bon râleur français, bien indépendant et rebelle. Waouh, la classe!